On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le Perek Ret, sur le chapitre 8. Donc à la page 125 dans le livre en français, sur la ligne qui commence Ve'al Dvarim Betelim Be'eter. Et en hébreu, dans le second le Tanya en hébreu, c'est la page 25, donc page 8 guimel. La ligne qui commence par Yamav.
Mais nous on a dit 125 là pour nous.
Oui, non, mais voilà, 125 ici, oui. Ve'al Dvarim Betelim. Où c'est que je vous ai dit ?
125, voilà.
Attendez.
Oui,
Ah non, pardon, excusez-moi.
C'est ça, c'est page 125.
135. Ah, 135. Peut-être c'est deux éditions alors.
Ah, c'est pas le même.
Ah, voilà, c'est ça.
C'est pas le même. Ah, non. Il est plus joli le mien, c'est normal.
Moi aussi, j'ai comme ça, 125.
Alors, très bien. Alors, je fais un résumé où on en était. Donc, ça fait quand même deux semaines qu'on n'a pas fait cours. Faut se remettre un peu dans le bain. Ouais, apparemment, il y a deux éditions, il y a une différence.
Quelle ligne on est, là?
Ben, on est Pérécrète, sur l'étude du 8 Evet, donc Ve'al Dvarim Betelim Be'eter, page 125 ou 135, un des deux, selon l'édition que vous avez. Si vous avez l'édition avec je crois que la majorité, vous avez cette édition-là. Sans la couverture, sans le papier. Ok. Alors, Ve'al Dvarim Betelim Be'eter. Donc, rapidement. On a expliqué, dans le cours précédent, que lorsqu'une personne mangeait, bien évidemment, si on mange quelque chose d'interdit, dans ce cas-là, la chose est assour. Assour, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est enchaîné, il est lié, il est bloqué. Ça veut dire que même si tu manges un morceau de cochon avec une grande kavana, avec 10 000 brachot, l'objet est lié. Il pourra jamais monter chaque adage barou. Ça, c'est un objet qui est assour. Mais un objet qui est moutard en hébreu, ça veut dire quoi? On avait expliqué longuement. Ça veut dire qu'il est délié. Ça veut dire que il est délié. Ça veut dire qu'avec une bonne kavana, si on fait une bonne bracha, on peut le faire décoller,
ouais, ça,
d'accord? On peut faire décoller les étincelles divines qu'il y a dans cet objet, on peut les faire décoller chez Akadosh Baruch Hu. Seulement, on avait expliqué, ça fait deux semaines, qu'en fait, même quand c'est un aliment permis, celui qui mange cet aliment uniquement par pur plaisir, pour le kiff, c'est pas interdit de kiffer dans la Torah, il y a pas une mitzvah dans la Torah que tu dis tu ne kifferas pas, c'est pas écrit. Seulement, il dit, le kiff en soi n'est pas interdit. Mais ce que le kiff peut amener à une personne, la recherche des plaisirs, ça peut détruire une personne. On avait expliqué longuement comment une personne qui est à la recherche des plaisirs, après un plaisir entraîne un autre, après il est à la surenchère, après il n'y a plus de limite. Alors bien sûr, après on est dans le cachère, après on est dans le semi-cachère, après on est dans le un quart cachère, et après voilà, progressivement on touche. Après à la fin, on sait plus où on atterrit. Après à la fin, le bonhomme, quand il a faim, il connaît personne. D'accord? Voilà, malheureusement. Pourquoi? Tout ça à cause de quoi? À cause que on a fait passer le plaisir en premier. Et c'est pour ça qu'il a expliqué, ça fait deux semaines, que le niveau qu'on attend de nous, qui est un niveau, on l'avait expliqué, qui est intenable, mais qu'on peut se négliger au moins le Shabbat, au moins de temps en temps, c'est d'essayer, chaque fois qu'on fait un repas, surtout quand c'est un repas de Shabbat, un repas de fête, de ne pas s'arrêter sur le côté kiff du repas, mais d'essayer un petit peu au moins pendant cinq minutes, de chercher le côté spirituel du repas. Parce qu'évidemment, on va voir le repas de Pessah, le repas de Shabbat, j'ai même pas commencé. Le repas de Shabbat, le repas de Pessah, évidemment qu'on aura des bons repas, et c'est les repas dans lesquels... c'est les repas dans lesquels, évidemment, le corps va kiffer. Mais ce qu'on te demande, c'est qu'au moins, pendant quelques minutes, essayer de quitter le kiff, non pas de dire que c'est pas kiffant, mais de se dire, bon, d'accord, le repas est kiffant, mais pourquoi je suis là? Pourquoi on est assis autour de la table? On est assis seulement pour kiffer, pour faire grossir le ventre, pour dire, ah, on a bien mangé aujourd'hui. Il y a une autre raison. Donc, il suffit simplement de dire un Dvar Torah, de répéter un mot de Torah, de répéter un mot qu'on a entendu à la synagogue, ou même de se poser la question, de dire pourquoi on est là, de raconter un Dvar Torah, de partager avec les enfants, de leur demander de raconter la paracha qu'ils ont écoutée à l'école, etc. Ça nous permet de donner un caractère un peu plus kadosh à ce repas-là. Donc, ça, c'était le thème sur lequel on s'est arrêté. Ça veut dire l'importance de, même quand on fait des choses qui sont permises, d'essayer de ne pas les faire que pour les kiffs. Parce que si on le fait que pour le kiff, ça peut détruire une personne. Ça, c'était pour la nourriture. Non, on va parler aujourd'hui de ce qui est à part la nourriture. Ah, on a la pizza qui arrive. Ah, je crois qu'elle est chaude alors.
Il faut espérer. Hein? Sinon, on va la noter.
Mais.
Bon, attends, il faut qu'on fasse une pause alors. C'est pour ça que je donnais l'exemple du repas de Shabbat. C'est un très bon exemple, le repas de Shabbat. Vous voyez, par exemple, le soir du Seder. Avant de manger le soir du Seder, combien de temps on va attendre avant de manger? Hein?
Au moins.
On va attendre longtemps. Vous connaissez pas la blague, une fois il y a un juif, un mendiant, qui dit, le temps que vous mangez, je vous raconte une histoire. Une fois il y a un mendiant qui dit à son ami, qui est mendiant mais qui n'est pas juif. Il lui dit, tu sais, chez nous, les juifs, le soir du Seder, on a un soir qui s'appelle le soir du Seder, et dans lequel tu peux te faire inviter très facilement, et vraiment, tu manges bien. Alors lui, il entend ça, il lui dit, mais je suis pas juif, moi. Il dit, c'est pas grave, tu mets une kippa, tu viens à la synagogue, ils vont t'inviter. Alors l'autre, il vient à la synagogue, et il attend, il essaye de tourner autour des gens qui sont les mieux habillés pour se faire inviter dans les meilleures maisons, les meilleurs plans. Et on l'invite, une belle maison, une belle table et tout, il est content. Et là, il arrive, qu'est-ce qu'on lui sert pour commencer ? Un verre de vin. Bon, il dit, bon, d'accord, on commence par le vin ici, il n'y a pas de problème. Après, on lui sert de l'oignon. De l'ail. Après, il attend, il parle, mais c'est quand le repas ? Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Après, attendez, après on lui sert du pain dur comme de la caillasse. Après, encore les herbes amères. Le gars, il n'en peut plus, il craque. Il jette les herbes amères et il s'en va. Alors, il va voir son copain le lendemain, il lui dit, mais dis-moi, c'est quoi ce plan que tu m'as donné là ? La maison était très belle, mais ils m'ont donné à manger de la caillasse. Son copain lui dit, mais c'est dommage, 5 minutes après, il y avait Shulchan Aruch, il y avait le repas. Non. C'est pour nous dire que le soir du Seder, c'est fait exprès par les Chachamim qu'on ne commence pas directement par le repas. On prépare le repas. Le repas vient seulement au milieu, une fois qu'on s'est bien préparé, qu'on a bien raconté l'histoire du Seder, que les enfants en parlaient. C'est là qu'on apprécie. C'est là qu'on apprécie. Parce qu'on a attendu pour le consommer. Bon, je referme cette parenthèse maintenant, qui parlait de nourriture. Et maintenant, en fait, on va quitter la nourriture. Je suis à Veal Dvarim Beteli, donc page 125 ou 135, j'ai donné tout à l'heure la référence. On va parler maintenant d'autres choses dans la vie qui n'ont rien à voir avec la nourriture, qui peuvent être permises, mais qui peuvent avoir un impact négatif sur la personne. Par exemple, Veal Dvarim Betelim Beeter. Vous savez que dans la Torah, une des choses qui est très grave, qui n'est pas bien, c'est ce qu'on appelle Dvarim Betelim. Allez, Rabotai, on va se concentrer.
Celle-là ?
Oui, Rabot. Pose-moi les poser, on verra après. Ouais. Alors, une des choses qui est très grave dans la Torah, c'est ce qu'on appelle les Dvarim Betelim. Est-ce que vous savez ce que c'est les Dvarim Betelim ?
C'est les paroles.
Paroles futiles. Ça veut dire quoi ? On est assis, une discussion qui sert à rien. Rien, ça sert à rien. Alors, évidemment que la Torah accepte le fait que quand tu rentres à la maison, après une journée de travail, évidemment que tu es fatigué, et que tu ne peux pas attaquer directement à l'étude. Il te faut un certain temps pour relaxer. Mais après, bon, voilà, je suis bien, je suis un Shabbat après-midi, voilà, je suis bien, je suis relax, je ne suis pas fatigué, je suis réveillé. Qu'est-ce que je fais ? Je parle de tout et de rien. Je n'ai pas fait de la chanara. J'ai pas de farim betelim. Alors, est-ce que c'est assour ou c'est pas assour ? Ça dépend. Ça dépend si c'est une personne qui sait étudier ou si c'est une personne qui ne sait pas étudier. Parce qu'il y a des gens que même s'ils savent, il y a des gens que même s'ils veulent étudier, ils savent pas étudier. Et pour eux, on leur dit le cours il démarre à 19h, c'est-à-dire que jusqu'à 19h, même s'il veut étudier, il peut pas étudier. Il sait pas, il ouvre un livre, il comprend pas, les mots, il lui saute aux yeux. Il comprend pas. Donc une personne comme ça, il y a des gens comme ça, et ça peut nous arriver à chacun, d'accord? Qu'une personne qui sait pas étudier. Alors, c'est pas de sa faute, quelque part, cette personne-là, s'il fait des Dvarim Betelim. Mais d'un autre côté, ce qu'il va expliquer, c'est que dire des Dvarim Betelim, dire des paroles futiles, c'est très mauvais pour la Neshama. Parce que la Neshama, Dieu nous a créé une Neshama qui cherche constamment à faire des choses qui ont du sens. Et il n'y a rien de plus néfaste pour la personne que de faire des choses qui n'ont pas de sens. Et ça d'ailleurs, vous pouvez le voir, on le sent. Vous savez quand on le sent ? Je vous donne un exemple, on le sent quand on est en vacances. Et je vais vous dire même plus que ça des gens qui m'ont raconté. Des fois quand on est pendant la fête, quand on est, imaginez, 3 jours de fête d'affilée. Et qu'on voit qu'on est là toute la journée, on vient le matin à la synagogue, après on va manger, après on va dormir, après on a un petit cours 1 heure avant Mincha comme ça. Et à un moment, des fois, on a un sentiment de vide. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ? Des fois, même quand on est en vacances, on fait rien, t'as rien à faire. Et des fois, t'as un sentiment de vide, t'as un sentiment que tu fais rien. Tu t'ennuies, tu fais rien d'intéressant. Pourquoi ? Parce que le Zohar explique qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé avec une nature qu'on doit être, il nous a créé pour créer. Dieu nous a créé pour que l'homme lui aussi crée. L'homme, il doit constamment être en train de créer, en train d'innover, en train d'étudier, en train de lire, en train de s'instruire, en train de faire quelque chose. Bien sûr qu'il faut se reposer, mais quand après on fait que se reposer et qu'on éteint tout et qu'on arrête, à un moment on sent qu'il y a du vide. C'est ce qu'il te dit ici. De la même manière qu'on a expliqué la semaine dernière, il y a 2 semaines, que manger pour le kiff, ça peut détruire une personne de l'intérieur. De la même manière, l'oisivité, ça peut tuer une personne. Et le Pirkei Avot, il pousse très loin. Pirkei Avot, il dit qu'en vérité, l'oisivité pousse une personne à commencer à dire du Lashon Hara. Le Lashon Hara va commencer à le pousser peut-être à arriver au vol, le vol au meurtre. Et des fois, tout ça démarre à cause de quoi ? À cause qu'il est en train de traîner en bas de la rue. Regarde ce qu'ils font tous les jeunes des cités. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ça commence ? L'oisivité. D'accord ? Ils sont en bas des cités. Au début, c'est pas directement. Ils descendent, ils disent, tiens, aujourd'hui, on va braquer une banque. D'accord? Ils discutent. C'est, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils discutent. C'est quoi le problème? On aura discuté. Et dès que la police dit, qu'est-ce qu'il y a? On aura discuté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Tu peux rien dire. Ils auront discuté. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que c'est, la Gemara les appelle Yoshve Kranot. Ceux qui sont assis dans les coins. Ça veut dire des gens qui sont à l'oisivité, qui sont là à rien faire. Être là à rien faire, il n'y a rien de pire pour la personne. Alors, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas des gens qui sont assis dans les coins en train de discuter, en train de passer toute la journée à discuter. Mais d'une certaine manière, quand on passe des fois des après-midi entières à perdre le temps, d'accord? Ou des soirées entières à perdre le temps, le bonhomme, il regarde la montre, il est 3 heures du matin, il n'a pas vu l'heure passer. Et ben, quelque part, c'est très mauvais pour la Neshama. Ça détruit la Neshama, ça. C'est pas assourd. On pourra pas dire que c'est assourd.
Non, d'accord.
Mais... parce qu'il a pas forcément fait de la chanara. Mais ça peut détruire une personne. Alors, en fait, on en avait parlé rapidement dans le chapitre 1. Mais je pense que le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Internet. Vous savez, quand on va sur Internet, sans faire interdit. D'accord? Tu dis, je vais aller sur Internet pour 10 minutes. 2 heures plus tard, tu regardes la montre.
On est encore sur Internet.
En général, ce que tu cherchais, tu l'as pas trouvé, mais t'as trouvé 10 autres trucs.
Ouais, c'est
vrai. Vous connaissez ça? D'accord? Et tu dis, mais t'as pas vu l'heure passer? 2 heures, ils sont passés. Le temps, c'est fini. Le temps, c'est une perte que tu ne peux plus jamais récupérer. Et ça, c'est Dvarim Betelim. Alors, est-ce que j'ai fait une Avera? Pas forcément. C'est pas forcément que j'ai fait une Avera. Mais c'est très néfaste pour la personne. L'oisivité est très mauvais pour la personne. Être là, à se laisser aller. C'est ce qu'il va expliquer ici. Ce qu'on appelle Dvarim Betelim Beheter. Ça veut dire des Dvarim Betelim, des paroles futiles. Ça veut dire donc l'oisivité, mais d'une manière permise. Par exemple, l'exemple qu'il va donner, Kegon, par exemple, Am Aret Shenoya Cholil Mod. Imaginez une personne qui n'arrive pas à étudier. Il y avait des gens comme ça, qui, plus que 5 minutes, n'arrivent pas à se concentrer. C'est-à-dire, le bonhomme, il rentre à la maison, il ouvre un livre, il commence à lire 5 minutes, ça, il perd la tête, il dit bon, ça y est, c'est bon, demain le prochain, il n'arrive pas. Donc, cette personne-là, il ne fait pas de Avera quand il discute. Seulement, l'oisivité peut faire beaucoup de mal à une personne. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est inévitable. On passe tous par là, par l'oisivité. Alors encore une fois,
pour éviter ça, il faut travailler.
Non, je suis conscient que ce qu'il nous dit, c'est que finalement, on passe tous par là.
C'est le travail.
D'accord. Mais c'est pour ça qu'en vérité, quand on parle, là en vérité, la Dmour Hazaken essaie de nous préparer à nous expliquer quelle est la personnalité d'un tzaddik. Nous, on a toujours cru jusqu'à maintenant qu'un tzaddik, c'est une personne qui faisait que des mitzvot. Là, la Dmour Hazaken veut nous expliquer que c'est pas, on parle pas seulement de faire des mitzvot, pas faire des mitzvot. Un tzaddik, c'est une personne que tout ce qu'il fait, il fait pour un Kadosh Baruch Hu. Il mange pas pour le kiff. Même quand il parle, il essaye de réfléchir comment je vais le faire pour un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'oisivité, il n'y a pas de moment mort, il n'y a pas de moment perdu. Mais c'est horrible, on n'arrive pas à être comme ça, c'est impossible. Vous savez ce que dit l'Agmara? L'Agmara a dit que même Sichat Roulin Shetalmid Rahamim Tricha Limoud. Ça veut dire quoi? Que même une discussion futile, entre guillemets, d'un Talmid Raham, Tricha Limoud, il faut l'étudier. Et on voit des fois dans l'Agmara, on te raconte une simple histoire de deux Rahamim en train de discuter de la pluie du beau temps. On dit oui, mais il a utilisé ce mot,
Ouais, mais c'est le contraire de ce qu'il dit là.
Ah ben non, justement. Parce que les Rahamim nous ont appris, dans leur vie personnelle, qu'il n'y a pas d'oisivité, il n'y a pas de moment libre, il n'y a pas de moment vide, ça n'existe pas. Seulement nous, on n'arrive pas à être comme ça. Mais il faut essayer au maximum d'être comme ça. Ça veut dire en d'autres termes, Rabotai, si je peux, on va essayer d'être clair. Ça veut dire que ce qu'attend de nous la Dmour Hazaken ici, c'est d'essayer de remplir au maximum notre emploi du temps. Il ne faut pas que notre emploi du temps soit vide. Il ne faut pas qu'il y ait des cases vides dans lesquelles c'est passé une journée et tu n'as rien fait. Il faut que quand j'aille dormir le soir, je dois me poser la question, en quoi je suis différent de ce matin? En quoi ce soir je vais aller m'endormir différemment d'hier soir? Des fois, franchement, tu dis, je sais pas, honnêtement, cette journée, elle aurait mieux fait de ne pas arriver. Ça vous arrive ou pas? Des journées comme ça, tu dis, aujourd'hui...
Tout va de travers,
ça veut dire que ni on a réussi, ni on a fait les mitzvot, ni on a fait... Tout va de travers, c'est ce qu'il dit ici. Donc, Alvarim, il y a des questions? Qu'est-ce qu'il y a?
Tout ça, c'est joli, mais enfin, on n'a pas de signe, comme quoi on est dans le bon sens, ou dans la direction de ceux qui veulent, les hachamim, ces messieurs-là qui ont écrit ça, ou on n'est pas dans le sens, on ne sait pas. On nous dit, il faut faire comme ça, est-ce que je le fais bien? Est-ce que ce que je fais, je le fais bien? Est-ce que je le fais dans le
monsieur
sens?
Monsieur Benita, vous êtes à la retraite.
Oui, monsieur.
Oui. Est-ce que vous sentez que vous occupez pleinement votre temps? Parce que j'ai du travail pour vous, si vous voulez.
Ça dépend des jours. Ça dépend des jours.
Est-ce que ça vous arrive des fois?
Ça m'arrive.
Vous arrivez à la fin d'une journée.
Oui, ça m'arrive.
Et vous sentez qu'aujourd'hui, vous n'avez rien fait?
Rien fait, non. Mais bon, que j'ai
eu. À part voir la télé et s'accrocher avec madame et.
Non, madame, voilà. Elle n'est pas là, elle travaille, donc ça va. Il l'envoie.
Il est beau.
Je parlais pas de vous quand je parlais, c'est un exemple que je donne. Il y a des journées, on arrive à la fin de la journée, on se dit aujourd'hui j'ai rien fait. Et ça, il explique l'Admor HaZaken, il dit que l'oisivité, ça détruit une personne. Pourquoi? Je veux m'arrêter un peu sur ce, c'est un thème très important, ça.
Mais on la combat, l'oisivité, par le travail.
C'est écrit comme ça. C'est écrit Adam, Léamal, Yulad. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il dit que l'homme a été créé pour se fatiguer. Ça veut dire qu'un homme, par nature, il a été créé pour se fatiguer. Regardez un bébé. Le bébé, quand il va naître, ouais, depuis qu'il est petit, il se fatigue.
Bien sûr,
il se fatigue. Il essaye d'apprendre à marcher, il essaye d'apprendre à parler, il essaye d'apprendre à manger. C'est une fatigue, parce que l'homme a été créé pour se fatiguer.
Il fait du sport toute la journée.
L'homme a été créé pour se fatiguer. Et qu'est-ce que dit le rabbi? Le rabbi dit, lorsqu'arrive chaque année l'anniversaire d'une personne, d'accord? Lorsqu'arrive l'anniversaire d'une personne, il doit faire un bilan. Sur quoi il doit faire le bilan? Est-ce que je me fatigue assez par rapport aux capacités qu'Akadosh Baruch Hu m'a données? Parce que, bien sûr que je travaille, bien sûr que je fais des mitzvot, mais est-ce que je me fatigue assez? Parce que c'est ça ce qu'il veut te dire ici, l'oisivité. On peut être là en train de travailler, mais par rapport à ce que j'aurais pu faire, bon, je suis très peu productif. Vous savez, il y a eu une étude qui a été faite récemment, qui disait que sur, j'ai plus le chiffre exact, que la productivité sur une journée de travail correspondait, je crois, sur 8 heures de travail à 3 heures de travail.
3 heures et demie,
exactement. D'accord? Et ça veut dire 3 heures et demie de travail sur 8 heures de travail. Et encore?
À Marseille, en Corse. À Marseille,
enfin. Et j'ai pas compté les congés, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'oisivité. L'oisivité, ça nous détruit. C'est ce qu'il te dit ici. Donc là, il va nous apprendre et nous travailler sur de pas avoir un moment de libre. Et vous imaginez un tzadik quand il va dormir le soir, il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce que son cerveau n'arrête pas de fonctionner. Il n'arrête pas de fonctionner. C'est une ruche. Ça bouge. Alors que nous, on n'est pas comme ça. Et ce qu'il te dit ici? Il te dit ici, pose-toi la question à la fin de la journée. Est-ce que j'ai utilisé ma journée ou pas? De la même manière qu'on a posé la question, ça fait 2 semaines. Je dois me poser la question, est-ce que j'ai mangé par kiff ou bien est-ce que j'ai fait pour un Kadosh Baruch Hu? De la même manière, je me pose la question à la fin de la journée, est-ce que j'ai utilisé pleinement ma journée ou pas? Puisqu'on parle de l'emploi du temps, je voudrais raconter aussi une autre histoire. Une histoire très connue. Du Rajba. Le Rajba, c'était un grand maître qui avait plusieurs fonctions. D'abord, c'était un Rosh Yeshiva, c'est-à-dire qu'il avait des élèves. C'était un Rishon, il a formé plusieurs grands élèves. À part ça, il a écrit des responsas. Plusieurs milliers de responsas, dont certains ne sont pas encore étudiés aujourd'hui. Récemment, on en a encore découvert. Des responsas. Responsas, ça veut dire des gens qui lui adressaient des questions très compliquées de Halakha, des questions dont la réponse n'est pas écrite dans la Gemara. Et qui va faire un peu le rôle du juge pour essayer de trouver la réponse. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. À part ça, il était docteur, médecin personnel du sultan, ou je sais plus de qui c'était là-bas. Et à part ça, il trouvait le temps tous les jours pour se balader pendant 1 heure. Se balader. Alors une fois, il y a un élève qui a posé la question. Il a dit, mais Rabbi, comment vous faites? Comment vous faites? Il dit, nous, on a, avec ça, bien sûr, c'est un père de famille, il a une femme, il a des enfants, etc. Il a des enfants. Bon. Alors une fois, il y a un élève qui a dit, mais comment vous faites? Nous, avec une fonction, on se noie. Vous trouvez le temps d'être chez Shiva, d'écrire des responsables, d'être docteur, d'occuper de votre famille, de vous balader. Comment vous arrivez? Il a répondu, il a dit, la clé de la réponse est très simple. C'est que quand je fais quelque chose, je suis à fond dans ce que je fais. Je pense pas à ce que je dois faire après, je pense pas à ce que j'ai fait avant. Je pense à ce que je fais maintenant. Ça, c'est mon secret. C'est-à-dire maintenant, je me balade, quand je me balade, j'oublie tout, je pense à ma balade. Je rentre à la maison, je pense à ma femme, à mes enfants, j'oublie tout. D'accord? Ensuite, je vais être le docteur, j'oublie tout. Maintenant, je suis docteur. C'est très difficile, parce que, instinctivement, d'accord? On est tout le temps là à se dire, bon, qu'est-ce que, voilà, maintenant, quelle heure il est? Il est 9h. Instinctivement, notre cerveau, il réfléchit, qu'est-ce que j'ai fait avant de venir ici? Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Et qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que maintenant après? Mais c'est instinctif.
Il arrive à se détacher de la réalité.
Eh ben, il leur a dit comme ça, le Rajba, il leur a dit, sachez, comme ça, il leur a expliqué à ses élèves, il leur a dit, sachez, que ça n'a rien à voir avec être tzadik ou pas être tzadik. C'est une question de maîtrise de soi-même. C'est une maîtrise. Et on avait fait un cours une fois récemment sur ça le jeudi matin. Et il y avait une des personnes qui était un coach qui m'avait dit que c'est une des choses qu'on conseille les gens, donc les coachs conseillent ceux qui sont dans les grands businessmen. Ils leur disent par exemple, avant de commencer le boulot, vous allez aller au golf. Maintenant, le gars, il a des gros contrats à signer. Quel golf maintenant? Tu vas au golf maintenant. Tu éteins ton portable et tu oublies tout. Pendant 1 heure, 2 heures. Tu oublies tout. Mais c'est horrible. Tu mets comme, j'ai des coups de fil et la banque elle va appeler. Tu oublies tout. Parce que, il a expliqué que maman, ce que la Torah dit exactement la même chose, pour habituer la personne, que quand tu fais quelque chose, tu oublies tout le reste. Rester concentré, rester focalisé sur une chose. C'est ce qu'il dit ici. C'est pas évident, c'est très dur. La preuve, regardez quand on fait la Amida, Combien de fois on a des pensées qui arrivent par-ci, des pensées qui arrivent par-là? Parce qu'on a du mal à être focalisé.
Alors, comment,
pourtant, combien de temps dure une amygdale? 4 minutes? Une bonne amygdale, ça dure 3 minutes? 4 minutes? 4 minutes? Qu'est-ce que c'est 4 minutes? C'est rien, 4 minutes. C'est rien du tout. Et ben, même ça, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à rester focalisé. On a du mal à se concentrer. Donc, je reviens à notre sujet, ce qu'il veut dire ici. C'est que, ce qu'il nous dit ici, c'est que quand on arrive à la fin d'une journée, on doit se poser la question, est-ce que j'ai utilisé pleinement ma journée, oui ou non? C'est une question qu'on doit se poser constamment. Et si on ne l'a pas fait, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, c'est ça ce qu'il dit, c'est avec ça que c'est, quelque part, ça peut être appelé une avéra. Ça veut dire comme ça. Après 120 ans, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne pourra pas me considérer ça comme une avéra. D'accord? Mais il pourra considérer ça comme un chet. Alors ça, je voudrais m'arrêter un peu dessus. En hébreu, comment on dit une faute? On dit avéra. Avéra, c'est une transgression. Mais il y a une autre manière de dire avéra. On peut dire chet. Comme, vous savez, dans le jour de Kippour, on dit al-chet. Quelle est la différence entre chet et avon et avéra? Avon et avéra, c'est une transgression. Chet, c'est un manquement. Un manquement. Et avec ça, le Zohar, il dit, quand les tzadikim, ils font al-chet, à quoi ils pensent? Ils n'ont pas fauté. C'est les gens qui n'ont pas fauté.
Qu'est-ce que tu avais à vous?
Alors, c'est quoi le chet, justement? C'est quoi le chet qui pense? Il pense.
Avéra, c'est tout de suite.
Non, mais chet, c'est un manquement. C'est-à-dire, je pense que ce que j'aurais pu faire. Et ça, un manquement, on en a tous des manquements.
Ce qu'on a raté.
Quoi. Ce que j'ai raté, ce que j'aurais pu faire. Ça, c'est le chet. Donc, je reprends dans les mots. Maintenant, on va essayer de développer un petit peu. Alors, bah, du coup, on n'a pas avancé dans les mots. On va reprendre. Vel dvarim betelim beheter. Quand c'est des dvarim betelim, c'est-à-dire des paroles futiles, beheter, de façon permise. Ça veut dire, comme on a expliqué, une personne qui, c'est pas la source qu'il a fait, Kegon, par exemple, Amaharet Shnei Echol Ilmod. Imaginons un ignorant qui ne sait pas étudier. Donc, est-ce qu'il a le droit de parler de la pluie et du beau temps? Oui, il y a aucun problème. Est-ce qu'il a le droit de raconter sa vie, de parler? Il n'y a pas de problème, c'est moutard, il n'a aucun problème avec ça. Mais néanmoins, le fait de passer toute sa journée à faire des choses vides, ça a un impact très négatif sur sa personne. Il devient après quelqu'un de vide. Vous savez, à force de véhiculer du vide, on devient vide. Tsarif l'éther nafsho mitumazo de klipazo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Cette personne-là, il doit purifier son âme de ça. À l'idée qu'il goûte la bekafakela kemoshketu bezoar parachat bechalar d'afmutet. Alors là, il faut que je traduise un petit peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que quand on arrive après 120 ans, il y a plusieurs punitions. Bon, heureusement que vous avez terminé de manger. Parce que le Zohar, il dit qu'une des punitions, c'est quoi? C'est kafakela. Kafakela, c'est la fronde.
La fronde.
Avec un D. C'est quoi la fronde? On prend une pierre, d'accord?
Élastique,
et on l'envoie. Après, on la ramène, et on la renvoie. Maintenant, c'est la fronde qui revient. C'est pas une flèche, c'est une fronde. Ça veut dire, tu l'envoies, elle part, elle revient. Tu l'envoies, elle part, elle revient. D'accord? Il y avait un élastique. D'accord?
Tire-boulette.
Très bien. Alors, en quoi c'est quoi la punition? C'est écrit comme ça. Le Zohar, il dit comme ça. Il y a plusieurs manières d'expliquer, mais je vais expliquer comme explique le Yelkut Shmuel. C'est quoi la punition de Kafakela? Après 120 ans, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu pour nous punir? Quelle est la punition la plus grave? La punition la plus grave, vous savez, c'est quoi? C'est quand Dieu te remonte les situations. Rabotai, écoutez, c'est vraiment important ça. C'est quoi la punition que Kadosh Baruch Hu donne après 120 ans? Punition très simple, il n'y a pas besoin de te punir. Il te remonte les situations que tu as passées quand tu étais ici dans ce monde. Juste, il te repasse le film. Et quand tu revois le film, tu dis, mais mince, mais j'aurais pu faire ci, mais j'aurais pu faire ça, mais j'aurais pu faire ça. Il arrête pas de t'envoyer comme une fronde. Il te renvoie là-bas, et tu dis, mais attends, mais j'aurais dû faire ça. Et hop, Dieu, il te ramène, il dit, ah, c'est trop tard, maintenant tu es ici.
Mais je fais
après, il te renvoie là-bas. Attends, non, mais c'est trop tard en haut. En haut, c'est fini. On peut plus faire tes chouas. C'est horrible, ça. Vous savez comment c'est horrible de ressasser le passé? C'est encore pire quand c'est pas toi qui ressasses le passé. Mais imaginez quand c'est pas madame, c'est Dieu qui te le rappelle. Tu dis, eh, mais tu te rappelles. Mais juste, il te montre le film. Et tu vois le film passer. Et tu te vois en train d'agir comme un chmar. Et tu dis, mince, pourquoi j'ai pas fait ça? Après, hop, Dieu il te ramène. Dis, ah, c'est trop tard maintenant. Après, Dieu il te repasse le film. Hop! Et il y a rien de pire pour la personne. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait ça? Kadosh Baruch Hu il fait ça après 120 ans pour que la personne réalise. C'est pas une avéra ce qu'il a fait. Ben, il avéra l'oisivité. Il savait pas étudier le bonhomme. Il sait pas étudier. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais Dieu veut lui faire réaliser que de lui-même il comprenne la gravité et le dommage. Comment c'est dommage, c'est un gâchis ce qu'il a fait. Alors, c'est quoi la meilleure manière? C'est de lui repasser le film. Et que Dieu ne parle pas de lui-même. Il lui dit, vas-y, regarde le film. Et quand tu regardes le film, tu dis, mais mince, mais j'aurais pu faire ça. Mince, mais j'aurais pu faire ça. De toi-même, tu comprends. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas nous punir pour nous punir. Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il veut nous punir d'une manière constructive. D'une manière que la Neshama comprend ce qu'elle a fait et comprend ce qu'elle aurait dû faire. Donc voilà comment le Zohar, il dit qu'après 120 ans, une des punitions qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est qu'il nous repasse par les mêmes situations pour nous refaire passer par situation là et pour se dire, voilà ce que j'aurais pu faire, voilà ce que j'aurais pu faire. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que tout le temps qui est passé, toutes les années qui sont passées, toutes les minutes qui sont passées, Dieu va nous les refaire passer après 120 ans. Il va nous refaire passer toutes les scènes, toutes les minutes, chaque chose, il va nous refaire passer. Il y en a pas pour 120 ans, ça va très vite. D'accord?
Si c'est rapide.
Mais c'est horrible. Parce que Dieu veut que la personne prenne conscience d'elle-même de la gravité de ce qu'elle a fait.
Oui, mais ça sert à rien, parce qu'on peut pas faire.
Pas du tout. En haut, d'accord? Dieu veut qu'il comprenne la gravité de ce qu'il a fait. Le fait même de comprendre la gravité de ce qu'il a fait, c'est déjà la teshuva.
Ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il est déjà mort. Qu'est-ce qu'il va comprendre?
La neshama. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il comprend? C'est... Attendez.
Il est mort.
Bah oui.
Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est la peau du cerveau qui comprend?
Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, la neshama, je sais pas.
Quoi, la neshama? Bon.
Bon.
Monsieur Benita, après 120 ans, la chair, elle va pourrir et ça va devenir des vers de terre.
Bah oui, donc voilà. Alors
qui c'est qui réfléchit? C'est un ver de terre? Donc vous êtes un ver de terre?
Non. Nous sommes des vers de terre.
Ouais, vous êtes un ver de terre.
De la potentiel. Terre. De la terre, on est sorti de la terre.
Non. Là maintenant, vous êtes un ver de terre parce que vous allez devenir un ver de terre.
Je vais devenir. Je ne suis pas encore. Je vais devenir.
C'est Benita, il y a une âme au fond de vous.
Oui, d'accord.
Il y a quelque chose qui dépasse le corps, évidemment. Bon, je rentre pas dedans.
Il veut du concret, monsieur Benita.
Ah, quoi? C'est du concret, c'est quoi ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 120 ans, Akadosh Baruch Hu nous refait passer toutes les scènes. Et plusieurs ont posé la question, mais à quoi ça sert? Parce que toutes les façons, on peut pas réparer. Vous savez, c'est comme quand une personne a fait une bêtise. Un enfant a fait une bêtise, des fois. On n'attend pas qu'il répare la bêtise qu'il a fait. On attend juste qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise. Et qu'il vienne te voir et qu'il te dit, papa, j'ai compris que j'ai fait une bêtise, je regrette ce que j'ai fait. Tu entends l'histoire, c'est bon.
Ben c'est bon, ça.
T'as pas besoin.
Ouais,
ben c'est... Ça, c'est l'essentiel.
C'est bien.
D'accord? Non, pas j'ai pas envie de prendre des coups. Papa, j'ai compris que j'ai fait une bêtise.
Mais là, une faute.
Alors, c'est la même chose. C'est la même chose.
Pardonner.
C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Il veut qu'on réalise ce qu'on a fait. Et plus on va revoir le film, et plus on va réaliser ce qu'on a fait. D'ailleurs, puisque j'ai parlé du film, je vais vous raconter autre chose du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit qu'il faut s'efforcer à toujours bien juger les autres. Pourquoi? Il dit, c'est très simple. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Le Baal Shem Tov, il dit parce que c'est écrit qu'après 120 ans, à Kadosh Baruch Hu, il va nous faire din vecheshbon. On en a parlé une fois, ça fait quelques mois de ça. Dieu, il va nous faire din vecheshbon, ça veut dire quoi?
Et les comptes.
Ça veut dire d'abord le jugement et après le décompte. Alors le Baal Shem Tov pose la question, il dit, mais c'est pas normal. Dans un tribunal normal, comment on fait? D'abord, on fait le décompte, et après, on donne le verdict.
Et on juge en fonction de ça, voilà.
Mais là, qu'est-ce que tu dis chez Akadosh Baruch Hu? D'abord, on donne le verdict, et après, on fait le décompte. C'est pas bon, ça. C'est pas la démocratie, là. Normalement, d'abord, on fait le décompte, et après, par rapport au décompte, on fait le jugement. Qu'est-ce que dit Baal Shem Tov? Baal Shem Tov dit, c'est très simple. Il y a après 120 ans, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il y ait une autre personne qui nous juge. Parce qu'après, on va dire, oui, mais lui m'a jugé, mais moi, je suis pas d'accord avec lui, comment il m'a jugé, etc. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il te refait passer la scène de ce que tu as fait. Mais sans te montrer que c'est toi qui l'as fait. On te refait passer la scène, tu vois une personne qui fait ça, qui est dans la situation, non, on se rappelle pas, il t'enlève ça de la mémoire. Non, mais c'est très sérieux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il te montre le film. Et après, Kadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Alors toi, tu vois, tu dis, ah, monsieur, là, mais c'est un rachat, etc. Donc tu donnes un verdict.
C'est l'affaire de
Haman. Une fois que tu donnes le verdict, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Maintenant, il te donne le décompte et tu dis, ben, le verdict que tu viens de donner, ça correspond au décompte à ton décompte. Voilà pourquoi on donne le verdict avant le décompte. De là, le Baal Shem Tov, il dit qu'il faut toujours habituer sa neshama, habituer son corps et donc habituer sa neshama à bien juger. Et ça, non seulement que c'est important pour nous, mais ça nous sauvera même après 120 ans. Que quand après, Kadosh Baruch Hu va nous montrer la scène, comme on s'est habitué à bien juger, donc, sans le savoir, on va bien se juger.
Oui, mais comme on le sait maintenant que ça se passe comme ça, alors quand on va arriver, on se jugera bien.
Mais vous allez l'oublier.
Note-le dans un bout de papier.
Neshama? L'âme divine? Nefesh Elohim. Bien sûr, Nefesh Elohim.
Les goyim
n'ont
pas d'âme divine, alors
c'est autre chose, les goyim parlera après. On va pour l'instant parler juifs, c'est déjà assez compliqué. Bah si tu juges mal, tu te juges mal. C'est quoi? C'est bien ça. C'est bien d'être tolérant.
Non, mais non, c'est en te jugeant. Je pense savoir que c'est toi. Et après, on
les mais tant mieux. Dieu, il dit tant mieux.
Non, non, non. C'est non. Sur la tolérance, c'est pas grave. Ok. Pas la
donc,
voilà. Faire pas la permissivité.
Donc, Rabotaille, on a.
Tu es tolérant envers les autres, pas envers toi-même.
On a un premier message pour aujourd'hui.
C'est la même chose.
D'accord. Allez, Rabotaille. C'est Vinita qui me fait le silence. Envers les autres. Donc automatiquement, on sera envers soi-même.
Prenez des notes.
Sans qu'on le sache.
Je comprends, mais là, c'est pas. On peut pas être tolérant vis-à-vis de soi-même.
Mais sans le savoir, il va être tolérant envers soi-même. C'est sa question. Si maintenant il va bien se juger.
Mais il sait pas que c'est son film à lui.
Voilà, il sait pas que c'est son film.
Il sait pas que c'est son film.
Je pense, oui.
Pour ça.
Alors, maintenant, ça, maintenant, donc déjà, on a un premier enseignement pour ce cours. Après, on va passer à un autre enseignement. Premier enseignement qu'on a dans ce cours, c'est on parle d'une personne qui ne sait pas étudier, donc on ne peut pas lui reprocher le fait qu'il n'étudie pas. Mais d'un autre côté, il n'a pas rempli son temps. Au lieu de remplir son temps, il aurait pu se rendre utile, il aurait pu aider quelqu'un, il aurait pu aider des gens, il n'a pas rempli son temps. Donc Dieu ne peut pas le punir pour ça. D'accord ? Pourquoi deux secondes ? C'est important parce qu'il faut voir la suite. Pourquoi Dieu ne peut pas le punir ? Parce que ce n'est pas de sa faute, il ne sait pas étudier. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Dieu ne va pas le punir, mais sa punition, c'est quoi ? Entre guillemets, sa punition, c'est que Dieu va lui refaire passer le film. Et quand il va repasser le film, c'est là qu'il va comprendre le temps qu'il a perdu. Et qu'il va comprendre qu'en vérité, même si tu ne savais pas étudier, comme disent les commentaires, tu aurais pu faire d'autres choses. Même une personne qui ne sait pas étudier, il aurait pu se rendre utile au service de la communauté, au service des personnes âgées, au service, il aurait pu lui prendre un livre, lire, il aurait pu se rendre utile. Et que combien de fois on voit des journées où on n'a rien fait ? Zéro, on n'a rien fait.
Mais c'est plus une autocritique, en fait.
100%.
C'est plus que,
100%,
que,
oui.
qu'un péché ou que...
C'est pas un péché, c'est pas une avéra. Il n'y a pas d'avéra.
C'est pas une punition.
C'est exactement comme les aliments de la semaine, il y a deux semaines. J'ai mangé pour kiffer, j'ai fait aucune avéra. Mais c'est mauvais pour moi. Parce que la recherche du kiff, c'est la même chose ici. L'oisivité, c'est il n'y a pas d'avéra dans l'oisivité. Mais c'est mauvais pour la personne. Parce que le vide attire le vide. Quand je passe ma journée à brasser du vide, je deviens vide à l'intérieur. Donc c'est mauvais. Maintenant, n'en parlons pas. Là, on passe au deuxième palier. Si maintenant, non seulement que le bonhomme avait des journées vides, mais en plus, non, je ne suis même pas celui qui s'est étudié. Si maintenant, au lieu de... C'est pas seulement que c'est du vide, mais carrément, il passe au Lashon Hara. Et en vérité, comme disent les commentaires...
C'est très, facile. Là,
voilà. Très souvent, on commence avec le vide, on dérape au Lashon Hara.
C'est le vide qui amène tout ça.
Non, c'est le vide. Le vide, parce que le vide attire la bêtise. D'accord ? Mais la première hypothèse, c'est que la personne n'a pas dit de Lashon Hara. Juste, il a passé ses journées à rien faire. Il a passé un mois, il a rien fait. Il a, qu'on appelle ça, il a bulé, il a rien fait.
Il a glandé.
D'accord ? Quoi ? Il a rien fait. Ni avéra, ni mitzvah. Il a, voilà, Monsieur Benita, il a bien dit, je répéterai Monsieur Benita, il a glandé, il a rien fait. C'est pas un sourd.
Non, mais quand tu dis rien faire, c'est pas s'asseoir sans rien faire. C'est quelqu'un, par exemple, qui joue au poker toute la journée.
Par exemple, ah oui, ça s'appelle rien faire. Rien faire de constructif.
Ça demande une concentration.
D'accord?
Mais d'un autre côté, on me dit, vous avez le libre arbitre.
Oui!
Alors donc,
c'est voilà, pas interdit.
J'ai choisi cet arbitre-là.
Y a pas de problème. Mais quand vous allez arriver après 120 ans, on va vous remontrer le film et vous allez regretter le poker.
Alors comment il va me le reprocher puisqu'il d'un côté il me dit, monsieur, vous avez le libre arbitre. Pourquoi il va faire un arbitrage différent?
Non, il fait pas un arbitrage. Il te remonte le film. C'est comme un acteur.
Il n'a pas à me juger.
Comme l'acteur. L'acteur il joue. On dit vas-y, il joue. Il joue. L'acteur il joue. On le laisse jouer pendant 120 ans. Après on lui repasse le film. Et c'est l'acteur de lui-même. Il dit, mais j'ai pas assuré, là. Ah, mais j'ai mal joué, là. On dit, attends, on revoit le film encore. On refait. Il dit, mais ça y est, je l'ai vu, c'est bon, j'ai compris. Non, on revoit le film encore. C'est horrible. Ça y est, j'ai compris que je fais une bêtise. Et plus tu revois, et plus tu comprends les nuances des détails. Donc ça, c'est la première chose, la première punition après 120 ans. Ça, c'est seulement dans l'hypothèse dans laquelle la personne, son seul problème, c'est qu'il a fait du vide. Qu'il a brassé du... Ça, franchement, on passe tous par là. Maintenant, n'en parlons pas, si on va passer deuxième hypothèse, c'est pas seulement qu'il a brassé du vide, c'est pas seulement qu'il a pas été constructif. En plus, il a fait des avérotes. Par exemple, aval me les diburim asurim. Si c'était des paroles interdites, kemo letzanout. Par exemple, la moquerie. Parce que, vous remarquerez, que très souvent, quand on commence le vide, c'est quoi le vide? C'est parler de tout et de rien. Très rapidement, on arrive à la moquerie. On se moque! On charrie! Est-ce que c'est un sort de charrier? Au contraire, pas l'interdiction. Mais après, voilà. Après, très rapidement, taquiner, c'est permis. Mais après, très rapidement, on arrive à l'etzanout. C'est quoi l'etzanout? C'est la moquerie. Et après, on se préoccupe pas, est-ce que l'autre a été blessé? Est-ce que l'autre n'a pas été blessé? On rigole, on se moque. Là, c'est déjà un problème. Là, c'est déjà assourd.
C'est-à-dire, il ne faut pas mettre le doigt. Dès qu'on met le doigt dans quelque chose, c'est foutu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On va laisser parler le texte, monsieur Benita.
Ben oui,
ça veut dire quoi? C'est quoi les tzanout? Les tzanout, c'est la moquerie. Et ça, franchement, on peut le voir. Regardez, il suffit de voir. Quand on est juste plusieurs copains assis comme ça autour d'une table, à rien faire. D'accord? Au début, on parle de tout et de rien. Et après, sans se rendre compte, on se met à...
Ça dérape.
On se met à rigoler de n'importe tout et de rien. Et on se met à se moquer. Les tzanout. Alors, les tzanout, c'est peut-être... On n'est pas encore arrivé à une avéra. On n'a peut-être pas encore fait de la shonara. Mais on commence à rigoler. À rigoler de tout. D'accord? Mais c'est limite la shonara. Pourquoi? Parce qu'on manque de respect. On commence à manquer de respect. Il y a des choses devant lesquelles on devrait avoir du respect. Et t'en as qui passent, ah, regarde comment il est habillé, ah, regarde comment il est comme ça, regarde comment il est comme ça. C'est pas forcément des avérotes. Des fois c'est des avérotes, des fois oui, des fois non. Mais on s'approche. On est à deux pas d'une avéra.
Mais c'est dommage.
Ça, oh, monsieur Bittin, s'il vous plaît.
D'accord.
Ça c'est déjà, d'accord. Ça y stop maintenant. Voilà, je. Scout, comment on dit, beaucoup. Pas chouïa. Alors.
Voilà, quoi, ça fait.
Ça fait. Pas exagéré.
Parce qu'après, on va vous repasser le film. Ouais. Et vous allez dire, mais dis donc, je parle beaucoup.
Mais au contraire, c'est bien. Il ne faut pas qu'on ait un cours comme ça, stam, sans le piquant. S'il n'y a pas de piquant, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que tout le monde se pose.
Bon,
oui.
Mais il y a plusieurs piquants.
Il faut qu'il y ait des piquants. Ben,
donc,
c'est ça,
je reprends. Il dit maintenant à l'Admor Hazaken, il dit, c'est dans la discussion, c'est pas seulement qu'on a parlé, c'est pas seulement des paroles futiles, mais en plus, on a déraillé sur du letzanout. C'est de la moquerie. Ou bien, encore pire, en général, après la moquerie, qu'est-ce qui arrive? C'est le lashon hara. Là, vous avez le dérapage. Au début, on parle de rien. Après, on se moque. Et après, hop, lashon hara, on dit, ah oui, mais tu sais, on a pris ça sur, on a pris ça sur là. Et progressivement, comme ça, on tombe. Mais que là, à ce moment-là, la punition de la fronde qu'on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a expliqué, c'est quoi la punition de la fronde? C'est que Kadosh Baruch Hu nous remonte les scènes. Ça suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi la fronde? La fronde explique ici l'Admor Hazaken, il dit, c'est comme un vêtement qui est sale. Il s'est salé un peu avec un peu de poussière. Qu'est-ce que tu fais pour le laver? Tu le secoues. Tu tapes dessus pour le secouer. Mais si t'as une tache qui s'est imprégnée à l'intérieur, t'as beau le secouer comme tu veux, il se lave pas. Il faut le laver. C'est la même chose. D'accord? Alors c'est la même chose qu'il dit l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, il dit comme ça. Il dit, quand je passe mes journées à rien faire, mais j'ai pas fait d'avéra, c'est comme si que je me suis couvert de poussière. Je suis resté propre, mais je me suis couvert de poussière. Dans ce cas-là, après 120 ans, Dieu me secoue un petit peu. Comment il me secoue? En me remontrant les scènes. Et là, ça me secoue. Je me dis, mince, j'aurais dû bien me comporter. Et ça, ça me secoue et ça m'enlève la poussière. Mais celui qui a fait du lashon hara, là, c'est pas simplement qu'il s'est encrassé. Il est taché. Il y a une tache qui est rentrée, qui s'est imprégnée. Et t'as beau le secouer autant que tu veux, la tache n'est pas partie. Là, il faut une punition plus grave. Alors, on va rentrer un peu dans d'autres définitions, mais c'est les définitions du Zohar. Alors, chez El Michelage Kilpot Atmiot les Gambrés, En kafakela levado mo'il leta'er tumato ou leavir tumato manefesh. Là, à ce moment-là, la fronde ne suffit plus. Parce que, vous avez dans les mots? Est-ce que vous avez dans les mots? On est au milieu de la page, la ligne qui commence par les gamrés. Et dans les livres en français? Page 135 ou 120, 136, voilà. Voilà. En haut de la page 136. En kafakela. En kafakela. Donc, la fronde, levado toute seule, ça ne suffit pas. Mo'il le avir ou l'avir tumato manefesh, raktikha le gad le geinom. Là, il faut descendre, d'accord? Là, on n'a pas le choix. La neshama doit descendre au geinom. Mais alors, c'est quoi le geinom? Le geinom, c'est comme une machine à laver. C'est un nettoyage. D'accord? Le Geinom, c'est un nettoyage. Mais attention, j'ai pas fini.
C'est plutôt...
Le Geinom, alors justement, dans la tête de beaucoup de gens, le Geinom est comparé à un four. D'accord? Alors, vous allez voir, quand on nous parle aujourd'hui, il y a un Geinom de feu, il y a un Geinom de glace.
C'est la pyrogue, là, on a un congélateur ou...
Parce que la glace aussi peut être une souffrance.
Bah oui,
c'est alors pourquoi les deux? Mais ça brûle, la glace ça brûle, mais ça brûle.
Mais c'est pareil, d'accord, que ce soit l'un ou l'autre. Bon.
Alors,
la souffrance est là.
C'est quoi, les deux? Alors c'est les images, ça bien sûr.
C'est la neshama, c'est pas le corps.
Donc là à ce moment-là, il nous dit, vechen, pareil. Donc grak tricha les raids les geinom. Là dans ce cas-là, la neshama doit descendre au geinom. Vechen, pareil. Michef charlo la stock batora veosek bitvarim betelim. Donc l'exemple qu'a amené Jérémie, il est dit de la même manière. Troisième hypothèse. Celui qui pouvait étudier la Torah. Et qu'au lieu d'étudier la Torah, ça, il est rentré chez lui, il s'est reposé, il n'y a plus d'excuses. Il est en vacances maintenant. Et au lieu d'étudier la Torah, il a passé son temps à faire des bêtises, à faire des choses futiles, des choses vaines, il a perdu son temps. Que là, dans ce cas-là, c'est pas simplement comme tout à l'heure, la fronde, c'est juste pour lui repasser la scène. C'est une avéra ce qu'il a fait. Parce qu'il aurait pu étudier. Bitul Torah, c'est une avéra. Le fait de ne pas étudier la Torah alors que j'aurais pu étudier, c'est une avéra. Là, à ce moment-là, la fronde ne suffit pas. Là, c'est une vraie avéra. En kafakela levado mo'il, les nafsho, les marka ou les achecha. La fronde, donc, qui était le, si vous voulez, le, quand on secoue,
oui.
Ça ne suffit plus à elle seule
là,
pour purifier la neshama. Rak onashim chamurim shema anishim al bitul Torah bifratut. Il nous faut des punitions spécifiques que Hakadosh Baruch Hu nous donne sur le bitul Torah. Quand on a, bitul Torah, ça veut dire quand on a manqué d'étudier la Torah. Milvad, à part. Onash aklali. Le chol bitul mizatase mechamatatlut begidam shel shelek imvav makomare. Alors là, en vérité, je vais vous donner ce que explique le Harizal. Le Harizal, il dit, pourquoi tu me dis qu'il y a un guéinom de glace et un guéinom de feu? Le Harizal, il dit comme ça. Il dit, quand on a fait une avéra, il y a deux catégories d'avéra. Il y a une avéra que j'ai eu le feu de mon yetzarara qui m'a poussé à faire quelque chose. D'accord? J'ai eu le feu de mon yetzarara qui m'a poussé à faire une avéra. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire quelque chose? Il te dit, ah, la passion de ton yetzarara. Je vais te montrer ce que c'est la passion. Il te brûle avec le feu. Ça, c'est le gainam du feu. Maintenant, d'un autre côté, dit le Harizal. D'accord? D'un autre côté, dit le Harizal. Il dit, des fois, il n'y a pas de passion. C'est quoi le problème? C'est juste qu'on était froid par rapport à la chose. Par exemple, il y a une personne qui est là, voilà, comme elle est tout à l'heure, l'oisivité, il est là, il se laisse aller. Est-ce que le bonhomme, il a une passion de se laisser aller? Il n'y a pas de passion. Il se laisse aller. Il est froid. Là, dans ce cas-là, celui-là, hein, c'est incohérent de lui donner un guéinom de feu. Parce que, il n'a pas fauté par le feu, il n'a pas fauté par la passion. Il a fauté par la froideur, la nonchalance. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, celui-là? Il lui envoie un guéinom de glace. D'accord? Alors, c'est concrètement, ça veut dire quoi, guéinom de glace? Qui est, concrètement, ne croyez pas qu'en haut, il y a des goulags, d'accord? C'est des images, tout ça. Ça, c'est des images pour nous montrer que Kadosh Baruch Hu, il nous refera passer les différentes scènes et on devra être nettoyé. Sur chaque chavera qu'on a fait, on devra être nettoyé. Donc. Vechen, pareil. Aosek, Bechokhmot, Tumot, Aolam. Autre exemple. Hein? On est tous visés par ça. Attention. Je vous rassure, on va tous passer au Guéinom. Non, mais je vous rassure. On va tous faire un sujet obligé. On va tous passer au Guéinom.
C'est la durée de la peine.
Alors, je préfère vous dire depuis maintenant. D'après l'Admor HaZaken, comme on expliquera dans la suite, et je pense que vous voyez un peu où il va en arriver l'Admor HaZaken, la majorité des juifs rentrent dans la catégorie de Racha Vetovlo. C'est un Racha, mais qui a une majorité de mitzvot. Parce que le Benoni et le Tzadik, c'est celui qui ne faute jamais. Et que toute sa vie, il a dédié à Dieu. Mais ça, on développera plus tard, dans chapitre 9, chapitre 10. Mais on est en plein dedans. Parce que quand on se voit dans tout ça, on se dit, mais bien sûr, est-ce que je peux dire que j'utilise mon temps à 100%? Jamais, c'est impossible. Donc on devrait être nettoyé. Bon, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Comme a dit M. Benita, on fait ce qu'on peut. Je fais ce que je peux, mais par contre, il faut montrer que je fais ce que je peux. Vous comprenez? L'enfant, quand il essaye, mon enfant qui ne sait pas marcher encore, d'accord? Il essaye de marcher un petit peu. Ça ne me dérange pas qu'il se casse la figure. Mais quand je vois qu'il fait des efforts, je dis, bon, il fait des efforts. Mais si je lui dis, ah, d'accord? Et je lui reste comme ça, je dis, ah, là, t'arrêtes de faire des efforts. C'est tout ce qu'il veut, il veut qu'on fasse des efforts. Okay. Donc là, on a donné maintenant quelques exemples. On a donné quelques exemples de choses qui ne sont pas forcément des averot, mais que, d'une certaine manière, c'est mauvais pour la neshama. L'exemple d'il y a deux semaines, c'était la recherche du kiff. L'exemple d'aujourd'hui, c'était l'oisivité, le vide. Ça, on a dit qu'on est tous concernés par ça. Encore plus si c'est pas seulement du vide et que carrément on bifurque sur du lachanara, etc. Là, carrément, c'est une averot. Il va parler encore d'un troisième point. Et vous allez voir que tous ces points, en vérité, sont complémentaires. Un troisième point qui peut être problématique chez nous. Alors, vas-y. Oui. Il ne peut pas.
Il ne peut pas parce qu'il est occupé.
Ou bien parce qu'il est occupé, ou bien parce qu'il ne sait pas apprendre. Il a dit Amaretz. Il a parlé d'Amaretz.
Mais quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas un
tiroute. Aujourd'hui tout le monde a accès à l'information, tout le monde a accès au savoir. Avant, il y avait des gens qui étaient illettrés, qui naissaient illettrés, qui mouraient illettrés. Et des gens qui, même s'ils voulaient, ils n'arrivaient pas. Ils n'étaient pas conçus pour ça. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça parce qu'aujourd'hui, il y a l'école pour tous, mais il fut un temps, même pas un siècle, dans lequel tu avais 5% de personnes qui étudiaient. Et les autres personnes, la majorité, étaient illettrées. C'est une réalité, hein. 95% des gens étaient illettrés.
Surtout que la formation en langage, à l'écriture, ça, elle va se faire très, très jeune.
Bien sûr.
Tu l'avais tard.
Après, c'est fini, tu peux plus. Après, il est occupé par le travail. Ok. Donc, on a parlé de deux choses. On a parlé de la recherche du kiff, qui peut être mauvais pour la neshama, bien que c'est pas assourd. On a parlé de l'oisivité, qui peut être mauvaise pour la neshama, bien que c'est pas assourd. Troisième point maintenant. Vechen, pareil. Aosek, bechokhmot, umot, aolam. Troisième point. Alors là, ça va être un point un peu plus compliqué. celui qui s'occupe avec les sagesses des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a la philosophie, par exemple. Il n'y a pas que la Torah. Il n'y a pas de la chorma que dans la Torah. Il y a de la chorma ailleurs. Alors, à l'époque, par exemple, il y avait la philosophie grecque, il y a la philosophie de la médecine, il y a la philosophie de la science. Il y a des philosophies intéressantes. Et une personne qui a son kiff dans des philosophies qui ne sont pas les philosophies de la Torah. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça peut faire avancer les choses. Bien sûr, c'est bien.
En tout cas, ça ne peut pas faire de mal.
Alors, avant d'avancer, je veux savoir ce que vous en pensez.
Je pense que ça peut que faire qu'avancer le débat. Au contraire, de savoir ce qui se passe.
Ça ne peut pas faire de mal.
Maintenant, on ne va pas étudier des trucs sciences profanes.
Depuis que je suis pratiquant, on m'a beaucoup déconseillé ça.
Ah, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres avis? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais on ne peut pas... On peut pas rejeter les civilisations et la culture des autres comme ça.
Non, j'ai pas dit rejeter. Non, mais j'ai dit moi aller chercher à étudier ça.
Tu parles de la philosophie. La
par exemple.
Elle a un postulat qui est à l'opposé de la Torah.
Pas forcément.
Il y a certains penseurs qui sont à l'opposé de la Torah. Donc si tu parles d'étudier les pensées des nations. En parlant de la philosophie, il y a tout. Il y a les extrêmes qui se disent les athées complètement athées, dans le sens
d'accord.
Être contre l'idée de Dieu.
Ça, c'est assourd.
Et les autres qui
très
te
bien.
Disent, par exemple, et qui te disent, qui ont fait un pari de Pascal, qui te dit voilà, moi je fais le pari que Dieu existe. Et donc, je vais dans ma vie.
Mais qui va être le démontrer
mais qui a
par
dit,
ses moyens.
Voilà.
Mais oui, attendez, c'est le problème. C'est
pas qu'il va te non, mais il a dit aussi, croyez, ça vous coûtera rien. Le même Pascal.
Bon,
ça peut aussi alors, dénaturer. Moi,
c'est une bonne question. Alors, mais pourquoi, Rabotai, on n'est pas obligé de parler de la philosophie.
Non, mais on peut parler des philosophes.
Ça peut être par exemple. Qu'est-ce que la Torah pense de l'étude des mathématiques par plaisir?
Torah et science.
D'accord. Attendez, écoutez bien ma question. L'étude des mathématiques, l'étude de la géographie, par plaisir, pas pour chercher un travail. Un jeune homme qui a fait son bac et qui va aller faire des études pour trouver un travail, c'est une chose. Bon, il veut chercher un travail. Je parle d'une personne qui a déjà un travail et qui va chercher à aller étudier une science qui n'a rien à voir avec son corps de métier. Qu'est-ce que la Torah pense de cette étude-là? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Il va pas aller étudier de la voie d'Azara, il va étudier quelque chose de permis. Donc a priori, on voit pas pourquoi il y aurait quelque chose d'interdit. On est d'accord? Mais là, on va rentrer dans le troisième point. C'est une chose qui n'est pas interdite par la Torah, mais qui peut être très néfaste pour la personne. Alors, où va être la limite, où c'est permis ou c'est interdit, on va en parler. D'accord?
Non, mais il a raison. Il y a de tout dans la philosophie. Il y a des athées.
Oubliez la philosophie. Parlez de géographie. Géographie, mathématiques.
Bah, c'est pareil.
D'accord?
Bon, ce sont
vous avez travaillé dans les livres, ça?
Oui, mais ce sont des
cultures. Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec les mathématiques?
Quoi? La philosophie.
Non. Votre travail. Est-ce que ça avait un rapport avec les mathématiques?
Moi, je faisais les sciences en général.
D'accord. Non, mais voilà. Est-ce que pour faire votre métier, vous avez besoin de connaître les mathématiques?
Non.
D'accord.
Pas spécialement.
Les
matières scientifiques. J'avais besoin.
Alors, j'ai envie
de
d'étudier les mathématiques. J'ai envie d'étudier par exemple, moi, j'aime bien l'informatique. Qu'est-ce que la Torah pense de ça?
0-1 informatique.
D'accord. 0-1 net. Alors, qu'est-ce que la Torah pense de ça? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et surtout, notre question, c'est qu'est-ce qu'ont fait les grands maîtres? Est-ce que les grands maîtres sont partis piocher dans d'autres sciences? Oui ou non?
Oui.
Ou bien, est-ce que d'un autre côté, on va te dire, alors attendez, d'un autre côté, il y a des maîtres qui vont te dire, tout est dans la Torah! Puisque tout est dans la Torah, pourquoi tu vas chercher quelqu'un d'autre?
Il y en a plein qui étaient docteurs.
D'accord. Oui, mais c'est pas développé.
Bonne question.
Quoi? Qu'est-ce qu'il dit?
Un bon point.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il dit, il y a plusieurs maîtres qui étaient docteurs.
Ben oui. D'accord. Oui, ben, c'est ce que je dis. Alors. C'est pas aussi développé aussi. Bien qu'on trouve tout dans la Torah, si on prend n'importe quel sujet, ce n'est pas, c'est comme les philosophes et les écrivains d'il y a un siècle et deux siècles.
Alors, donc, on a besoin de définir, on a besoin à bataille. De toute façon, on va laisser le texte parler. On a besoin de définir les contours, d'accord? De savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. En vérité, pratiquement tout est permis. À moins d'étudier la voie d'Azara, c'est permis. C'est une mathématique, géographie, il n'y a rien de négatif dedans.
Non, mais c'est pas d'accord au détriment de la Torah.
Alors, mais, ouais. Si, c'est bien sûr, c'est au détriment de la Torah.
Non, pardon. Il ne faut pas que ce soit au détriment de la Torah.
Oui, mais quelque part, développer un kiff dedans, ça peut être un kiff qui va dépasser le kiff de la Torah.
Non, la question.
Je vais te donner un exemple très simple. Le bonhomme, il est en vacances. Quand on est en vacances, on fait ce qu'on a toujours eu envie de faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un livre de Torah? Ou il va aller ouvrir un livre d'autre chose?
Non, mais
il
faut que c'est compliqué. Il y a la question à l'envers aussi qui consiste à dire, si j'étudie les mathématiques, est-ce que c'est pas du temps que je prends à la Torah?
Exactement.
Oui, mais bien sûr. Mais
alors on va expliquer.
Alors voilà le dilemme.
Alors, qu'est-ce que va répondre le Mourazakel? Alors ça, on va développer, il y a plusieurs éléments. וכן, העוסק בחוכמות אומות העולם, בכלל דברים בטלים יחשב ואינם נבעים ביטול תורה. אדמו"ר הזקן, la réponse est très simple. D'abord, il nous donne la définition halakhique. Il dit, toutes ces études de sciences externes, enfin, ce qu'on appelle externes, ça veut dire les sciences à part la science de la Torah,
ouais.
Sciences profanes, d'accord, mais on appelle ça externes,
ouais.
Sont considérées comme dvarim betelim. C'est quoi dvarim betelim? C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, des paroles futiles. Mais c'est pas interdit. Attendez. J'arrive. Doucement.
Non.
C'est des paroles futiles.
Monsieur Benita.
Là, c'est chaud.
Stop. Faut laisser aller le texte jusqu'au bout.
D'accord.
D'abord, vous laissez aller le texte jusqu'au bout. Hotzot. En plus de ça. D'accord. Non, c'est pas facile. Surtout, c'est pas facile. Surtout quand on a, parce que nous, à la Yeshiva, par exemple, on n'a jamais fait des études comme ça. Mais quand on a des enfants qui ont fait des études, etc., et que tu viens, tu dis, c'est pas bien, tu dis, attends, doucement, et comment on aura des docteurs, comment on aura des avocats, comment on aura des ingénieurs, il faut bien qu'ils travaillent, il faut bien qu'ils apprennent un métier. On va en parler. Là, déjà, on parle du concept. Est-ce que étudier des sciences externes, qu'est-ce que la Torah pense de ça? Donc d'abord, numéro un, il te dit, a priori, s'il n'y a pas de raison que tu vas chercher ailleurs, ça c'est considéré comme des dvarim betelim. C'est des paroles futiles. C'est-à-dire, c'est pas assourd, mais c'est du temps perdu. Hotzot, en plus. Il va nous montrer le problème, et après, il va expliquer les exceptions. Et il y a beaucoup d'exceptions. Yétera t'oumatash el chromat ou aumat al umtumat dvarim betelim. Là, on arrive au problème. Pourquoi il insiste beaucoup sur ça? Il dit parce que, quand une personne a des paroles futiles, bon, c'est des paroles vides. Est-ce que son cerveau est atteint par les paroles futiles? Non, c'est des paroles vides. Non, son cerveau, il n'est pas touché par ça. Ça ne va pas changer son idéologie. C'est pas parce qu'il a dit des paroles futiles qu'il va devenir quelqu'un de vide. Ça prend beaucoup de temps. Mais écoutez bien, c'est très, très puissant ce qu'il va dire.
Enfin, il faut qu'il définisse déjà
s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que arriver jusqu'au bout, là.
Des paroles
vides. Lorsqu'une personne maintenant va étudier de la science, et que pour lui, la définition même de la science va devenir les nouveaux livres qu'il est en train d'étudier, quelque part, quand il va essayer de réfléchir, par exemple, on va lui dire « définis Dieu », définit certaines choses, quel est le premier réflexe qui va lui venir? Là, on arrive à ce que M. Guinich voulait dire. Quel est le premier réflexe qui va lui venir? Le réflexe qui va lui venir, c'est ce qu'il a étudié. Pourquoi? Parce que l'Admor HaZaken développe un principe qui est très fort en psychologie aujourd'hui, qui te dit, à force d'étudier quelque chose, tu deviens ce que tu étudies. Ça veut dire, tu prends une personne qui est de gauche, à force d'écouter des gens de droite et de les écouter, il finira par devenir quelqu'un de droite. C'est comme ça. Parce que quand on comprend quelque chose, à force de comprendre des choses, eh ben finalement, on devient comme ça. Donc tu t'imagines. Et donc tu t'imagines, cette personne-là, quand tu prends un enfant, tu prends un enfant juif, tu lui dis, pour toi, c'est quoi la science? Pour moi, la science, c'est la Torah. Cet enfant-là, tu l'amènes dans les écoles, et les grandes écoles, cet même enfant, tu lui poses la question à 22 ans, tu lui dis, d'après toi, c'est quoi la science? C'est pas sûr qu'il va te répondre, c'est la Torah. Peut-être qu'il va te répondre, pour moi, la science, ben, c'est les grandes études, les grandes choses. Tu mets quoi? C'est ça, la science pour toi? Donc, c'est pas une avéra, ce qu'il a fait. Ça peut être même une mitzvah, comme on va expliquer après. Seulement, qu'est-ce qui peut se passer? Le piège des études, le piège des sciences profanes, c'est qu'après, on peut arriver à une situation que le cerveau est atteint dans le sens que pour nous, après, la définition de la science, c'est les nouvelles sciences qu'on a étudiées. Et que du coup, la Torah, ça a l'air archaïque, ça a l'air vieux jeu. Et ça, c'est un grand piège.
Ouais, mais on peut dire le contraire.
C'est un grand piège,
aussi.
D'accord.
C'est peut-être aussi
il faut s'en défaire.
Voilà. Mais
c'est peut-être aussi les cours qu'il a reçus précédemment n'étaient pas suffisamment forts pour faire de lui un grand.
Non, faux. C'est faux. Excusez-moi. Faux.
Mais il y a aussi quelque chose. Il y a différent. Quelqu'un qui a une formation comme ça, on va dire une formation universitaire, qui après étudie la Torah, quelque part, la formation universitaire plus la Torah en complément, ça va beaucoup l'aider aussi dans la compréhension de la Torah.
Alors,
et vice versa.
On va arriver.
Et quelqu'un qui est de la Torah qui va, ça va aussi complètement l'aider.
Tu as raison. On va en parler.
Les deux vont aider.
Elles sont complémentaires.
Mais il y a un danger.
Il y a un grand danger, c'est l'application de la Torah elle-même. Quand tu es quand tu es baigné dans cette philosophie ou cette science, etc., tu dénatures la source même de la Torah.
Il a raison.
Je comprends. C'est-à-dire, quelqu'un qui commence par la Torah, c'est plus facile dans le sens de la Torah, puis aller un petit peu, parce que tu as besoin de.
Vers les profanes.
Non, vers le profane, c'est pas pour simplement avoir
donc,
le répondant.
Je vais reprendre l'exemple de Michael. D'accord? Mickaël, tu as dit, par exemple, tout à l'heure, tu as dit, Rabotaille. D'accord? Parce que j'aimerais qu'on arrive jusqu'au bout, parce que c'est vraiment intéressant, c'est des choses de tous les jours. Mickaël a dit tout à l'heure, il dit, voilà, par exemple, Pascal, il disait, qu'est-ce qu'il disait, c'est quoi la phrase qu'il disait, tu m'as dit, pour la croyance?
Le pari pascalien. Moi, je parie que Dieu existe.
D'accord.
Donc, si je perds, je serai un verre. Si je gagne, eh ben, je...
D'accord. Donc, ça veut dire que, Pascal croyait en Dieu. Très bien. Alors, maintenant, imagine-toi, très bien. Il a démontré, je suppose. J'ai pas étudié ça, mais.
Il a pas démontré. Il a dit,
C'est un postulat.
D'accord.
Il parlait à son collègue, je sais plus comment il s'appelait à l'époque, il lui dit, voilà, quand t'as un chemin, tu penses le contraire, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut penser, voilà ce que tu vas gagner. Mais, tu perds rien à faire.
Mais est-ce que Pascal avait des raisons pour y penser comme ça?
Oui. Non, il avait pas de raison, il disait, croyez, ça vous coûtera rien. Ça résume un peu
ce qu'il a dit Pascal. Ça c'est pas bon ça.
Bah si, c'est ce qu'il disait.
Mais ça c'est pas bon ça.
Ah ben pourquoi c'est pas bon?
Parce que quand on dit croyez, ça vous coûtera rien, c'est-à-dire que tu n'as rien à perdre.
Ben oui.
Quoi, ben oui?
Ben oui, c'est mieux que de ne pas croire du tout.
Oui.
Il s'adresse à celui qui croit pas du tout.
Alors, rabotaille, le piège dans toutes ces sciences, c'est qu'après, quand on veut s'imaginer la croyance en Dieu, quand on veut s'imaginer certaines choses, quel est le premier réflexe qui nous vient à la tête? C'est d'y penser tel qu'on l'a étudié dans les autres livres qui ne sont pas des livres de la Torah. Et que pour nous, ce qu'on a étudié dans ces livres qui nous ont l'air plus convaincants parce qu'il y a des croquis, parce qu'il y a des schémas et parce que ça a l'air convaincant, eh ben, ça nous a l'air, ça c'est la vérité. Et donc, du coup, dans la tête de certaines personnes, et ça le rabbi s'arrêtait beaucoup sur ça, quand il y avait un conflit entre la Torah et la science, parce que des fois il y a des conflits, enfin des conflits, certes, des fois il y a des incompatibilités entre la Torah et la science, qu'est-ce qui se passait? Des gens qui venaient voir les rabbins, qui disaient, la Torah n'est pas compatible avec la science, donc il faut que la Torah s'explique par rapport à la science. Et là, le rabbi disait, mais attendez, pourquoi c'est la Torah qui doit s'expliquer par rapport à la science? Bien sûr qu'on doit tout faire pour essayer de la rendre compatible. Et le rabbi lui-même a eu beaucoup, beaucoup d'énergie pour ça. Et il a même pris beaucoup de scientifiques pour essayer de faire en sorte un maximum, de démontrer qu'il n'y a pas de contradiction. Mais, à la base, il disait, pourquoi vous dites que c'est la Torah qui doit se justifier par rapport à la science? Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas la science de se justifier par rapport à la Torah? Le fait même de dire que la Torah doit se justifier par rapport à la science, ça veut dire que pour moi, la vérité absolue, c'est la science. Et que la Torah, c'est archaïque, et elle se débrouille pour que ça corresponde. C'est un peu ça ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que le rabbi avait insisté dans un des livres qu'il avait composé, d'appeler le livre Torah ou Mada. Torah et science. Pas science et Torah. Tout est dans l'ordre. Quand tu dis science et Torah, c'est d'abord il y a la science, et on va essayer de faire en sorte que la Torah suive. Non, tu dis non. D'abord, il y a la Torah. Si on arrive à expliquer que la science va avec, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais pour nous, la vérité absolue, c'est quoi? Le référentiel, c'est quoi? C'est la Torah.
Vous avez fait
ça? Bien sûr, plein de... Ça, c'est un des pièges. C'est un des grands pièges qu'il y a quand on étudie les sciences. Donc, je résume. Le piège qu'il y a quand on étudie des sciences, un piège qui n'était ni dans la nourriture, dans la recherche du kiff, et ni dans les paroles futiles, c'est que dans les paroles futiles et dans la nourriture, le cerveau n'est pas atteint. L'oisivité ne touche pas le cerveau. Le kiff, ça touche pas le cerveau. Ça reste dans le corps. C'est la recherche du kiff. Par contre, les sciences, ça touche le cerveau. Et là, quand le cerveau est atteint, tu peux avoir des gens qui sont ultra religieux, mais comme ils ont étudié beaucoup de sciences, le cerveau devient tordu. D'ailleurs, on raconte de Acher, qui était Elisha ben Avouya. On dit que Elisha ben Avouya, il a commencé à étudier la culture grecque, et à un certain moment, les Chachamim ont commencé à dire, le ver a commencé à le ronger à l'intérieur. Parce que c'est ça, la science. La science, ça te ronge, et tu peux rester religieux à 100%, mais à l'intérieur, ça te ronge, et qu'après, ton référentiel n'est plus la Torah. Donc voilà pourquoi l'Admora Zakeni dit, voilà pourquoi on voit que le Zohar, a priori, il était contre étudier les sciences externes. Alors pourtant, la question que vous avez tous posée, tu vous dire, mais on a vu des rabbins qui étaient médecins. Alors qu'est-ce que, et on n'a jamais vu que la Torah interdit d'être médecin. Alors c'est là qu'on va mettre les exceptions qu'on va citer. Il y a plusieurs exceptions, ça veut dire que c'est pas interdit, mais il faut savoir bien le faire. Alors, dans les mots, She'eino malbish umetame rakamidot miyesod aru arkadosh benashu elokit. Betumat klipat noga shebidvarim betelim. Donc, je vais rapidement parce que j'ai dit à l'oral ça.
C'est dommage, vous n'avez pas le même livre que
moi. Abaim miyesod aru ara shebiklipazo shebenashu bemekidil el. Velo prinat rabat shebenashu. Donc, dans les mots. Voilà. Donc, ceux qui ont le livre rouge, on est à la page 26. Et dans le, ici. Dans tout ce que je vous dis, j'ai dit à l'oral. Voilà. Page 138 ou 128, en haut de la page. Vélo prina trabat chez Benafcho. Quand j'avais la recherche du kiff, quand j'avais l'oisivité, dans ce cas-là, mon cerveau n'était pas touché. Mais achar shem divresh tout barou, parce que c'est de la bêtise. La recherche du kiff et l'oisivité, c'est de la bêtise, donc le cerveau n'est pas touché. Chez Gamashotim de Amaret, Yochlim le Daverken. Même des imbéciles peuvent rechercher le kiff et même des imbéciles peuvent dire des bêtises. Par contre, Alors que dans le troisième point qui était le, la culture, la recherche de la culture, la science, ça touche le cerveau. Ça touche le cerveau. Et là, comme on a expliqué, le problème, c'est qu'après, le référentiel dans ma tête peut très rapidement, malheureusement, devenir le, non pas la Torah, mais la science. Je peux vous garantir que c'est un vrai problème aujourd'hui. Vous savez, tous les mardis, Baruch HaShem, j'ai l'occasion de donner cours au Beit Lovitch étudiant. D'accord? Donc, qui est à la, dans le cinquième arrondissement. Et je peux vous dire qu'un des gros challenges qu'il y a avec les jeunes, il y a des gens pratiquants. Ils mettent des feelings, ils font tout. C'est que pour eux, le référentiel, c'est la science. Dès que tu refais un cours, il dit oui, mais dans la science, on dit comme ça. T'as envie de lui dire, mais tu peux pas lui dire ça, parce que bon, en face, tu peux pas lui dire ça. T'as envie de lui dire, mais et alors? Tu peux pas lui dire ça. Donc, il faut expliquer à chaque fois. Parce que ça, c'est des années de travail. Parce que tellement on leur a dit dans la tête que la science, la science, la science, la science, que du coup, tu reprends la Torah, il dit bon, ben, la Torah, pour moi, c'est archaïque, et c'est à elle de se défendre par rapport à la science. Ça, c'est le piège. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que la science, dans les sciences profanes, il n'y a pas de chorma? Bien sûr qu'il y a de la chorma. Il y a des choses très intelligentes. Au contraire, même la Gemara, elle dit, celui qui dit, il y a de la chorma que dans la Torah, on lui dit, tu te trompes. Chorma bagoïm, il y a une chorma chez les nations. Celui qui dit, il n'y a pas de chorma chez les nations, on lui dit, tu te trompes. Alors dans ce cas-là, où est le problème? Le problème, c'est comme on a expliqué, c'est qu'un juif, pour lui, son référentiel va devenir dans les sciences externes. Alors maintenant, pourtant, on a vu des, quand on dit, des rabbins qui ont étudié des sciences externes, des sciences profanes. Alors comment ça marche?
Comment on peut discuter avec les goyes?
Donc là, maintenant, il faut qu'on parle des exceptions.
Parce qu'en fait, la première explication qu'un goy va nous demander, c'est sur les premières lignes de vérifier.
Sur les
premières lignes de vérifier. Ah, il va nous dire comme ça, il y a un truc que je ne comprends pas dans ton histoire. Quand tu nous racontes, le petit juif, que le monde, il a été créé en 6 jours, il s'est reposé au bout du 7e jour. Et que ton monde, il a 5700 ans.
Ok, d'accord, ouais. Ouais.
Nous, chez nous, les goyes, on a notre compteur.
Chez eux, oui.
Ouais, chez eux, les goyes, on a au compteur des millions d'années.
Quel compteur?
16 milliards.
Dans le compteur des goyes.
Quel compteur?
Dans le compteur des goyes.
D'où il sort ce compteur?
De l'univers, d'après les scientifiques.
Non, il le sort d'après les recherches scientifiques.
Les goyes, ils ont 1 milliard d'années ou 16 milliards d'années, je ne sais pas. Des millions et des millions d'années. Alors, tu veux nous expliquer c'est quoi la différence entre tes 6 jours et tes milliards d'années? On peut leur dire, et moi j'ai trouvé que ça à leur dire, c'est que on parle de 6 jours, mais on n'a pas dit 6 fois 24 heures.
Non, c'est faux ça.
C'est clair.
C'est pas une bonne réponse.
Ah bon, alors
ben, c'est une réponse qui n'est pas bonne, parce que dans la Ketouba, dans laquelle s'il y a une lettre qui n'est pas bonne, elle n'est pas cachère, on dit je me suis marié à 5773 ans de la création.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il faut 5773. La réponse est très simple, le Zohar donne la réponse à la question. Il dit que le monde a été créé vieux.
Vieux?
Oui. Le monde a été créé vieux. Donc on a faussé tous les calculs avec ça. Mais attendez.
Qu'est-ce que ça veut dire vieux?
Mais le monde a été créé vieux.
Avant 5000 ans.
Il a été créé vieux. Ça veut dire comme si, ça veut dire que.
Il a 13 milliards plus.
Il a été créé à 13 milliards.
Adam Arishan a été créé vieux.
Mais je vais donner une réponse très très simple. Une réponse que le rabbin amenait souvent dans ses lettres. Une réponse très simple. Il dit, la base même de la science c'est la recherche de la vérité. La science c'est les théories. C'est-à-dire des théories. On n'a pas peur dans la science de dire que c'est une théorie qu'on avance et que demain on peut donner une théorie contraire. Parce que la science, c'est la recherche de la vérité. Mais la science, dans la science, une théorie n'est jamais la vérité absolue. Ça, c'est même la base de la science. C'est quoi le problème d'aujourd'hui? C'est que vous avez des profs qui enseignent dans les écoles, d'accord? Bon, je monte pas cette école, hein. D'accord? C'est quoi le problème? C'est qu'ils vous enseignent des théories comme des vérités. Des vérités absolues. On enseigne aux gamins, ces pauvres gamins. On leur dit oui, c'est une vérité absolue que le monde a été créé il y a 15 milliards d'années. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on croit carbone 14, demain, on va croire en je sais pas quoi. On dira, non, en fait, c'est pas 15 milliards, c'est 32 milliards. Non, en fait, c'est pas 32, c'est 2 milliards. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va voir ces jeunes-là, et on leur raconte des théories, comme si c'était des certitudes. C'est une erreur, ça. C'est pas comme ça qu'on enseigne la science. C'est le rabbi qui dit ça. Il dit, lui-même, le rabbi étudiait la science dans ses études. Il a dit, mais la science, c'est la recherche. Il dit, moi-même, quand j'étudie la science, j'essaye de faire tout mon possible pour la faire correspondre avec la Torah. Des fois, on arrive, des fois, on n'arrive pas. Mais la science, c'est les théories. Donc quand c'est une théorie, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Un scientifique, c'est une personne qui n'a pas peur de mourir avec une question. Il ne doit pas venir à la fin de la journée de dire « j'ai des réponses ». Un scientifique, il n'a pas peur de mourir avec de mourir sans avoir des réponses. Moi, c'est quoi le problème? C'est qu'on a des scientifiques du dimanche qui viennent vous enseigner la science dans les écoles, et que pour eux, ils veulent avoir des certitudes, parce que pour eux, on a dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Et donc, ils enseignent des théories comme des certitudes. Et nos gosses, ils mangent ça. C'est ça le problème. Et après, ils disent « oui, mais c'est écrit contraire dans la science ». Mais la science, c'est une théorie. La science, elle te dit ça. La science elle-même n'a pas peur que quelqu'un dise le contraire d'elle. C'est ça, la science.
Quand
la réponse du Zohar. Le Zohar, la Torah, c'est la vérité absolue. Ça, c'est notre référentiel. Mais on doit essayer de comprendre avec les outils de la science. C'est sûr, ça. On doit tout faire. Le Zohar te dit que le monde a été créé vieux. C'est-à-dire, c'est comme si qu'il a été créé, par exemple, à 13 milliards d'années.
Ouais, mais là, il perd pas, il dit vieux, d'accord. L'autre, il me dit.
Mais attendez. Le Zohar n'a pas été écrit il y a 100 ans. Le Zohar a été écrit, d'accord, il y a plus de 1500 ans, même plus. D'accord? Une partie du Zohar a même été écrit il y a plus de 2000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le Zohar a été écrit avant même que les gens se sont posé la question, est-ce que la Terre est ronde, ou est-ce que la Terre est carrée, ou est-ce que la Terre est plate, est-ce qu'elle est pas plate, et de combien de temps date le monde? Le Zohar nous a dit des choses déjà. Il sait de quoi il parle. Alors maintenant, on essaye de faire correspondre la science, mais le problème, il est pas dans la Torah, le problème, il est dans la science. Et il y a des rabbinim qui ont fait beaucoup de livres sur ça, pour essayer de faire correspondre, mais eux-mêmes, dans les débuts, à chaque fois dans ces livres-là, ils te disent, on essaye, c'est un essai de faire correspondre.
Bah, c'est une
peut-être
théorie,
ça marche, peut-être
aussi.
Ça marche pas.
C'est une d'accord théorie comme les autres.
Une théorie. La Torah n'est pas une théorie. La
non,
Torah est
non,
une certitude.
Non. Sur la création, là.
Donc.
Il dit que.
Alors, en fait, c'est ça. Pardon?
C'est 13 milliards plus 5 milliards.
C'est non, c'est pas 13 milliards. Le monde a été créé il y a 5773 ans.
On sait pas si c'est 13. Demain, on peut dire c'est 2, comme il a dit Mendy.
Il change. Regarde, pour certains, vous vous rappelez. Moi, quand j'ai grandi, on était déjà au carbone 14. Mais avant, c'était pas. Comment s'appelait celui qui avait avant le carbone 14? Avant qu'ils ont changé, là.
Ouais, je suis pas
ils ont changé, mais c'est pas grave. Et à chaque fois, ça bouge de plusieurs milliards. En plus, tenez très simple. Le référentiel qu'on a pour le calcul, on se base sur 200 ans d'histoire.
Bien sûr. Et en faire ça,
pour analyser les arbres, etc., tout ce qu'on a analysé. On se base sur 200 ans d'histoire. Et par rapport à 200 ans d'histoire.
Beaucoup plus que
200
ça.
Ans d'histoire.
Vous étudiez la Terre, par exemple, les différentes roches.
Oui, monsieur Benita, l'étude du carbone 14, ça commence, on a des chiffres depuis 200 ans. Ça veut dire qu'on a seulement 200 ans de chiffres. 200 ans de chiffres par rapport à des milliards, dans la science, c'est une probabilité zéro, ça vaut rien. C'est une théorie.
Ça va.
La science n'a pas peur de ça, c'est une théorie. C'est une théorie. C'est rien 200 ans par rapport à des milliards d'années, ça vaut rien. Donc, il n'y a pas de certitude.
Enfin, moi je dis qu'il y a plus que 200 ans avec le carbone 14.
Non. Bon, si vous voulez, je pourrais vous faire un cours.
Bon, d'accord.
J'ai bien étudié le sujet, je peux vous dire.
Qu'est-ce qui doit répondre Michael à son...
Il doit lui répondre.
Il doit répondre à mon copain.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il doit lui répondre? Mais alors, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout.
Pour répondre à sa question, tu vas lui dire que nous, notre Torah est une certitude. D'accord. Que pour nous, ce qui est écrit dans la Torah, c'est une certitude, c'est pas des théories. Notre Torah n'a pas changé tous les 10 ans, tous les 15 ans. Elle n'a pas bougé depuis 2000 ans, depuis 3000 ans. Elle n'a pas bougé. Notre Torah nous dit que le monde a été créé depuis 5774 ans. Je peux peut-être essayer d'expliquer, comme on a expliqué avec le Zohar, que le monde a été créé vieux. Mais quoi qu'il en soit, que je comprenne ou je comprenne pas, pour moi, ce qui est écrit, c'est la vérité. D'accord. Tu comprends? C'est comme voilà, par exemple, je donne un exemple. Je respire. C'est une certitude que je respire. Maintenant, même si la science va me prouver que je respire pas, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes du pipeau? Je respire, moi, maintenant.
Tu trompes quelque chose,
Michael.
Quoi qu'il arrive, donner toutes les explications que tu veux, tu feras.
La Gemara me forage. La Gemara. Bien sûr, la Gemara dit me forage.
Donc à quoi ça sert à un moment donné? Tu peux lui dire ce que tu veux, manière, tu vas jamais le convaincre. Ça
bon,
sert à
rien, on va refermer la parenthèse, d'accord?
Tu sais bien que c'est pas ça.
Avec grand plaisir.
Il n'y a que nous qui pouvons être convaincus de ça.
Ah, voilà, j'arrive. Bon, Rabotaille, on va revenir. Allez, Rabotaille, parce que c'est déjà presque l'heure. S'il vous plaît, je voudrais juste terminer. Donc il nous faut les exceptions. Donc on a expliqué le grand danger de la science, et c'est pour ça que dans le monde rabbin en général, et pas que dans le monde religieux en général, on est très très méfiant par rapport à ceux qui vont étudier des études profanes. Pourquoi? Maintenant on comprend pourquoi. Parce qu'on comprend que le dommage que ça peut faire est un dommage qui peut être très profond, et que ça ne touchera pas la conduite de la personne qui continuera à mettre cette filine et continuera à être religieux, mais le dommage qui va être fait à l'intérieur peut être un dommage qui est très 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 profond.
Ça voudrait dire que c'est...
Alors, deux secondes, je vais juste terminer. Quelles sont les exceptions que la Torah nous donne? La Torah nous donne plusieurs exceptions. D'accord? Dans les mots. La Torah nous donne deux exceptions, c'est quoi? Elaimken, Ose, je suis allé qui commence par Ose, Otam, Kardom, Lachatorbem. Plusieurs exceptions. Première exception, si j'étudie ces études-là, donc si j'étudie ces études profanes, pour apprendre un métier. Alors tu me dis, oui, mais un métier, tu aurais pu faire poubellier. Oui, mais moi j'aimerais bien gagner ma vie. Or, pour bien gagner sa vie, il faut faire des grandes études. D'accord? Donc comme il dit ici, Dehaïnou kedelit parnes miem berevach. Moi, je voudrais bien gagner ma vie. Pourquoi je veux bien gagner ma vie? Parce que je sais qu'une personne qui galère pour la parnassa, après il a du mal, dès qu'il veut étudier un peu, dès qu'il veut s'occuper de sa famille, il a du mal. Alors moi, quand je suis jeune homme, je me dis, moi j'aimerais bien gagner ma vie. Comme ça, je suis tranquille, j'ai un peu de tranquillité. Il n'y a rien contre, la Torah est pour ça. Là, on te dit, là, dans ce cas-là, l'étude profane n'est plus négative. C'est devenu même une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié dans le but de t'attacher à l'étude profane. Tu as étudié dans le but de chercher une parnassa. Donc, par exemple, celui qui veut devenir médecin, celui qui veut devenir avocat, celui qui a fait des études. Pas qu'il a déjà un métier et qu'il apprend pour le plaisir d'apprendre. Ça, c'est première option. Alors quoi? C'est-à-dire que si maintenant j'ai 40 ans et que je vais étudier les mathématiques, j'ai pas le droit? Parce qu'il n'y a plus d'implication pratique? Si, il y a encore une autre option. C'est quoi la deuxième option? Ou bien, deuxième option, c'est si il sait s'en servir pour le service de Dieu et pour la Torah. Comme on a vu le Rambam, par exemple. Rambam, Maïmonides, Nachmanides. On a vu que les deux, c'était des grands maîtres qui ont utilisé la science pour convaincre les gens de la Torah. Et pas seulement ça, des fois, ils ont dans leurs livres, ils ont utilisé des idées de la science pour expliquer des choses qu'on n'avait pas compris dans la Torah. Ce que tu as dit tout à l'heure. Là, dans ce cas-là, ce qu'ils ont montré, c'est que non seulement que c'est pas incompatible, mais au contraire, c'est complémentaire. Sauf que, pourquoi ils ont réussi ces gens-là? Parce que dès le départ, quand ils ont commencé à étudier, c'est pas ils sont partis étudier pour dire on va chercher des nouvelles vérités. Non. C'est pas ils ont dit on va chercher la version 2014. Non. Ils sont partis, ils ont dit pour nous la Torah restera toujours la vérité immuable qui bouge pas. Seulement, on va chercher d'autres sciences pour essayer d'être complémentaires à la Torah pour mieux comprendre des choses qu'on ne connaissait pas dans la Torah. Par exemple, le calendrier hébraïque qu'on a aujourd'hui. La méthode de calcul de la tribu de Issachar qui avait une méthode de calcul purement juive pour calculer le calendrier, on l'a perdu. On n'a plus cette méthode. Notre méthode est basée sur un calendrier grec. D'accord? Oui? Notre méthode de calcul, c'est scientifique parce que ça correspond au soleil. Il y a des calculs. Il faut des calculs pour savoir où se trouve le soleil, où se trouve la lune. D'accord? C'est un calcul qui correspond à c'est des calculs. D'où on a ces calculs-là? Ça vient des Grecs. Et Maïmonides, lui-même qui amène ces calculs-là, il dit, mais comment on peut prendre des Grecs? Il dit, il faut savoir écouter la vérité de celui qui l'a dit. Ça veut dire, c'est de l'astronomie grecque. D'accord? Le Rambam, par exemple, pour la médecine, il avait des grands professeurs arabes. Oui. Des grands professeurs arabes qui lui enseignaient la médecine. Et il a appris. Pourquoi, encore une fois? Parce que le Rambam, Maïmonides et Nachmanides, ils l'ont fait pour deux choses. Soit pour avoir une parnassa, par exemple, Maïmonides est devenu docteur, soit pour l'utiliser pour le service de Dieu. On voit par exemple que Maïmonides, dans le guide des égarés, il utilise plusieurs arguments des choses qu'il a apprises dans la science pour la Torah. Là, c'est bon. D'accord? Donc là, en vérité, chacun de nous, quand on a par exemple un jeune homme qui va faire les études, on sait par exemple qu'il y avait plusieurs fois des jeunes hommes qui faisaient teshuvah et qui voulaient arrêter de faire les études, le rabbi leur disait, continuez vos études. Mais d'un autre côté, quand il y avait des élèves de yeshiva qui disaient au rabbi, on a envie d'aller à l'université, le rabbi leur disait, attention, n'y allez pas, c'est dangereux. Je sais ce que c'est l'université, c'est très dangereux. L'université, on peut y aller et ne pas revenir. Attends, ça veut dire quoi, aller et ne pas revenir? Tu peux revenir et continuer à mettre les tefillines. Ne pas revenir, ça veut dire que ta tête n'est plus là. Donc voilà, avec ça on termine aujourd'hui. On a expliqué les trois pièges qu'il pouvait y avoir dans des choses qui sont permises, mais dans lesquelles il y a des pièges. Premièrement, on a expliqué la recherche des plaisirs, la recherche du kiff. C'est lié au ventre. Deuxième chose, c'était l'oisivité, parler de bêtises, etc. Ça, on a expliqué, c'était quelque chose qui touche la bouche, mais qui touche pas le cerveau. Troisième chose, c'était aller étudier les sciences externes, les sciences profanes, que c'est permis, mais ça peut faire de dommages. D'accord? Donc la réponse, c'est permis, mais avec modération et en s'assurant que pour nous, la vérité absolue reste la Torah.
On est 10.
On est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, non, moi je vais voir, si je peux me permettre, deux petites minutes, une réaction naïve, très naïve de ma part. Vous le savez, j'ai perdu ma maman. Et juste avant, j'avais vraiment le feu en moi. J'avais des douleurs, des minerves et tout. Et je disais à table chez moi, j'ai mon fils qui fait des études dentaires, et je disais, mais c'est incroyable, je comprends pas. Depuis le décès de ma mère, on dirait que Dieu a mis les choses de telle manière que la souffrance de la perte de ma mère a demandé à toutes mes douleurs, je m'exprime très, très naïvement, a demandé aux autres douleurs de se taire. Et là, tout d'un coup, mon fils répond, dit, mais papa, c'est connu. Il y a une glande dans le cerveau qui envoie un signal et patati. Et ça m'a, et là, je ressors ça m'a fait réagir. Alors voilà, moi, par exemple, une première réaction. Attention, je mets mon fils avec moi. Mais déjà, les études qu'il commence à faire, enfin, du moins qu'il continue, lui, pour lui, c'est la glande. Alors que, immédiatement, moi, j'ai pensé, j'ai dit, tiens, Dieu a fait les choses en sorte que non, on peut pas peut-être supporter autant de douleurs. Donc, il a dit aux autres de se calmer. Et là, voilà qu'on m'explique. Ah ben non, la médecine a déjà prévu ça. Il y a une glande dans le cerveau qui dit à l'autre.
C'est la médecine qui a découvert.
Oui, d'accord.
C'est le challenge de ceux qui font les études.
C'est naïf, hein. mais ça non, m'a
marqué. Raison. À un moment, le référentiel peut devenir la science des études. Voilà, on est en plein dedans. Donc c'est un challenge à savoir surmonter.
Et comme tu l'as dit, si
mais on... c'est permis, on le fait pour la Torah, on le fait pour travailler, c'est permis.
Mais en plus, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu t'adresses à des universitaires, il est toujours plus facile à convaincre l'universitaire quand tu es toi-même universitaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait universitaire plus Kodesh, il a qu'à, par rapport aux universitaires, il est plus pour eux, hein, et c'est pas une vérité, mais pour eux, lui, il est plus crédible.
Alors, Rabbi disait qu'avant d'aller aux élèves de Yeshiva qui voulaient aller faire l'université, il leur dit d'abord, vous devez bien remplir votre ventre, c'est une expression, avec la Gemara, le chasse, les postimes, etc. Oui. Après, une fois que vous avez un bagage solide, là, tu vas aller à l'université pour comprendre, tu vas étudier.
Tu disais, l'Yeshiva et Nabouya, ça n'a même pas suffi.
Et jamais les autres choses. Bon. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, l'âge où on va à l'université, c'est l'âge où on se construit. Et quand on se construit avec des choses comme ça, alors c'est ça qui devient notre référentiel. Ouais, c'est un piège. Ouais, c'est un piège. Il faut savoir faire attention à ça. D'accord? Donc, conclusion de ce Pérec Rèt, c'est un Pérec passionnant. Ça veut dire qu'on a, vous avez remarqué, les trois choses qu'on a citées, c'est des choses permises. Le kiff, l'oisivité et les sciences profanes, c'est permis. Mais c'est des choses permises qui peuvent causer un dommage et donc qu'il faut savoir prendre avec modération et savoir faire des efforts entre deux.
Voilà. Et d'où l'effort.
D'où l'effort que la Torah nous demande.
Et des chabats pour les universitaires.
Voilà. D'accord. Bezrat Hashem. Après Pessah, on prend le chapitre 9. Là, on va passer Bezrat Hashem encore sur notre sujet.